VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 14h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Au Burundi, le gouvernement rejette catégoriquement le rapport d'OCHA, le Bureau de coordination des Nations Unies pour les questions humanitaires. Les autorités burundaises dénoncent ce qu'elles qualifient de documents écrits de façon unilatérale et demandent à OCHA d'entrer en contact avec 4 ministères concernés pour élaborer un autre rapport consensuel et fiable afin de venir en aide aux personnes qui ont besoin d'assistance en 2018. De Bujumbura, notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Le communiqué du secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba, rejette en bloc le contenu du rapport sur le plan de réponse humanitaire 2018. Le rapport d'OCHA affirme que 3,6 millions de Burundais ont besoin d'assistance humanitaire, une situation alarmante, loin de la réalité selon Bujumbura. Selon le rapport de l'Office de coordination des affaires humanitaires, 2,4 millions de personnes au Burundi seraient même en situation humanitaire urgente et nécessiteraient cette année une intervention humanitaire des Nations Unies pour plus de 141 millions de dollars. Le gouvernement burundais apprécie l'initiative de la communauté humanitaire pour venir en aide aux personnes en situation d'urgence, mais déplore que le rapport et les chiffres avancés n'ont jamais fait l'objet de collaboration avec les ministères concernés. Pour Philippe Nzobonariba, le gouvernement a consenti des moyens importants dans des projets visant l'amélioration du bien-être des populations rurales et se dit étonné par les chiffres avancés par OCHA. Le gouvernement burundais préfère mettre en avant la politique de subvention des engrais, la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants et l'esprit de solidarité nationale qui permettrait d'affirmer que la situation de 2018 est meilleure qu'en 2017. Enfin, le gouvernement burundais s'attend plus à ce que ses partenaires axent les efforts beaucoup plus sur l'aide au développement qu'à l'aide humanitaire. Notons que les agences onusiennes et le ministère burundais de relations extérieures étaient ensemble, pourtant lundi, au moment du lancement officiel du plan humanitaire 2018 pour le Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En RDC, un mouvement musulman qui se dit proche du parti présidentiel appelle à une marche dimanche pour contrer la manifestation anti-Kabila préconisée par les catholiques. Les détails avec Eddie Sango.
L'Alliance des kabilistes musulmans, AKAM PPRD, c'est le nom du groupe. Il appelle à une marche pacifique dimanche à Kinshasa, en même temps que celle organisée par des opposants catholiques au président Joseph Kabila. Les groupes n'est officiellement reconnu ni par les partis présidentiels, ni par la communauté musulmane de la RDC, minoritaire, avec environ 10% de la population. Les groupes disent vouloir inviter les chrétiens à se préparer à gagner des élections et non à créer des troubles dans le pays, a affirmé un des signataires de la lettre, Mondo Moussa, cité par l'AFP. Les catholiques démentent au président Kabila, dont le deuxième et dernier mandat s'est achevé en décembre 2016, de déclarer publiquement qu'il ne va pas se représenter à la présidentielle prévue le 23 décembre 2018. Les autorités ont interdit toute manifestation publique depuis novembre. Les deux dernières marches à Kinshasa ont été sévèrement réprimées.
En Tanzanie, une centaine d'organisations de la société civile dénoncent les violations des droits de l'homme commises par le régime du président John Magufuli. C'est une démarche inédite dans le pays, Morgan Guriek.
105 organisations de la société civile tanzanienne dénoncent dans un communiqué conjoint des attaques, actes de torture et disparitions forcées. Elles citent le cas du député de l'opposition, Tundu Lissou, victime d'une tentative d'assassinat, le journaliste Azori Gwanda, porté disparu depuis l'année dernière, et l'étudiante Akilina Mafta, tuée vendredi par une balle perdue pendant la répression d'une marche de l'opposition. Ces ONG demandent la mise en place d'une commission électorale indépendante avant les élections générales de 2020 et la tenue d'un dialogue national. La semaine dernière, l'ambassade américaine à Dar es Salaam avait critiqué l'enlèvement puis la mort de l'opposant Daniel Jones. Auparavant, les évêques catholiques avaient dénoncé les violations de la liberté d'expression par le gouvernement de John Magufuli. Surnommé le bulldozer, le président Magufuli, 58 ans, est qualifié d'autocrate par ses détracteurs.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes en Afrique, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissent demain vendredi à Bruxelles pour renforcer leur soutien politique et financier au G5 Sahel. La force régionale africaine qui lutte contre la menace persistante des groupes djihadistes dans la lisière sud du Sahara. Les détails avec Anne Adberson.
Pour cette conférence de haut niveau, le président français Emmanuel Macron, très engagé sur le dossier, et la chancelière allemande Angela Merkel seront aux côtés des chefs d'État des pays du G5 Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad. Au total, cette conférence des donateurs rassemblera 18 dirigeants européens présents à Bruxelles pour un sommet informel de l'Union européenne programmé l'après-midi et une dizaine de ministres des Affaires étrangères, dont ceux du Sénégal, d'Arabie Saoudite, de Tunisie, du Maroc ou de Norvège. Après avoir été dispersés lors de l'intervention française en 2013, les factions djihadistes ont trouvé un nouveau souffle dans le nord et le centre du Mali, malgré la présence de 12 000 casques bleus de l'ONU et de la force française Barkhane, qui mobilise 4 000 hommes dans la région. Multipliant les attaques contre ces forces et l'armée malienne, les groupes djihadistes ont étendu en 2017 leurs actions au centre et au sud du Mali, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, qui sont aussi régulièrement touchés.
Au Nigeria, l'armée a retrouvé 76 écoliers emportés disparus et récupéré les dépouilles de deux autres, plusieurs heures après l'attaque d'un village par de présumés militants du groupe djihadiste Boko Haram. L'opération de secours a été confirmée à l'agence Reuters par trois parents, un habitant du village et des membres du gouvernement. 111 écolières manquaient à l'appel deux jours après l'attaque d'une école de filles dans le village de Dapachi, dans l'état de Yobe, dans le nord-est du pays, ravivant la menace de kidnapping de masse comme celui des lycéennes de Chibok en 2014. Côte d'Ivoire, les premières élections sénatoriales dans le pays sont officiellement fixées à la fin du mois prochain. Objectif, l'instauration du Sénat créé par la nouvelle constitution de 2016. Sur proposition de la CEI, la commission électorale indépendante, le collège électoral pour l'élection des sénateurs est convoqué le samedi 24 mars, affirme un communiqué du Conseil des ministres. La campagne électorale va se dérouler du 19 au 22 mars, selon le document. Les conseillers municipaux et régionaux des actuelles mairies et régions constituent le collège électoral du scrutin au suffrage universel indirect qui va se tenir dans chacune des 31 régions et 197 communes du pays. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire au terme de la nouvelle constitution. L'ex-star du football, George Weah, tout nouveau président du Libéria, est en France pour sa première visite officielle hors du continent africain. Le chef de l'État libérien et son homologue français Emmanuel Macron ont parlé de projets sportifs en Afrique lors d'un déjeuner mercredi avec des vedettes du football africain. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Didier Drogba, ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, et Kylian Mbappé, une des stars du PSG, ont aussi pris part au déjeuner, de même que Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, et Gianni Infantino, président de la FIFA. Le sport peut être un vecteur fort et dynamique pour l'Afrique, a déclaré le président Emmanuel Macron. Il a annoncé le lancement d'une plateforme de transformation par le sport en Afrique. Elle sera dotée d'un budget initial de 15 millions d'euros pour financer, entre autres, la construction d'infrastructures, la fourniture d'équipements sportifs, des programmes de formation ou d'aide à la création d'entreprises. « Je vais mettre toute mon énergie possible pour aider au maximum », a ajouté Kylian Mbappé. « On est fiers de faire partie de ce projet », a réagi Gianni Infantino. « Le football est très puissant parce qu'il permet de rassembler, d'unir les peuples », a renchéri Didier Drogba, qui a créé une fondation pour la santé et l'éducation des jeunes en Côte d'Ivoire et en Afrique. George Weah a remercié la France pour le don annoncé de 10 millions d'euros et a appelé les entreprises françaises à investir davantage dans son pays.
Guerre en Syrie maintenant, l'artillerie du régime syrien pilonne ce jeudi la Ghouta orientale, fief rebelle proche de la capitale Damas, faisant fi des appels internationaux à stopper le bain de sang dans cette région où 335 civils, dont de nombreux enfants, ont péri en 5 jours de bombardements incessants et dévastateurs. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé une trêve immédiate et dénoncé un enfer sur Terre dans ce secteur. Les ONG se disent horrifiées par l'ampleur des bombardements d'une violence inédite depuis les débuts de la guerre en 2011. Et le Conseil de sécurité devrait voter probablement aujourd'hui sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu de 30 jours pour permettre l'accès à la Ghouta orientale.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.